Chapitre 20. Une après-midi, Platon arriva tout soucieux chez sa sœur et la pria de passer avec lui dans son cabinet de travail, pièce sérieuse et sombre où Dosia ne pénétrait jamais. « Qu'as-tu ? » lui dit Sophie, inquiète. « Est-il arrivé quelque malheur ?»«
Rien qui nous concerne directement, » répondit Sauf.
« Mais si la nouvelle est vraie, elle aura pour résultat de changer nos habitudes. »
« N'est-ce que cela ?»
fit Sophie en respirant plus librement.
« Quand je dis nos habitudes, il y a des habitudes de cœur qui sont difficiles à rompre.
Au fait, voici ce que c'est. D'après un bruit qui m'est arrivé ce matin, Mourieff aurait joué, avec un personnage peu scrupuleux, dans une maison, une vilaine maison, et il aurait perdu, sur parole, une somme énorme. » Sophie pâlit et s'assit dans un fauteuil. Elle prit son mouchoir, le passa deux fois sur ses lèvres, puis croisa ses mains sur ses genoux et réfléchit. Platon ne s'attendait pas à tant d'émotions. Surpris, il s'approcha de sa sœur et lui prit la main. Il allait faire une question que la délicatesse retenait encore sur ses lèvres lorsqu'elle le prévint.
« Je l'aime, »
dit-elle simplement en levant ses yeux honnêtes sur le visage ému de son frère.
« Je te demande pardon, ma sœur, » répondit Platon, vivement touché de cette franche parole à ce moment difficile. « J'aurais dû garder cela pour moi et m'informer. Qui te l'a dit ?»«
Le colonel. » Il n'aurait pas parlé si la chose eût été douteuse. Il m'a envoyé chercher ce matin et m'a prié, en ma qualité d'ami de Mourieff, de faire de mon mieux pour éviter le scandale. La somme est telle que Pierre ne pourra pas la payer sur le champ. Il faudrait obtenir du temps. D'un autre côté, le gagnant était prévenu d'avoir allé à gagner ailleurs. Nous ne pouvons admettre au régiment qu'une dette sur parole souffre de difficultés. Sans sa bonne conduite, Mourieff serait déjà cassé.
« Quand ce malheur est-il arrivé ? » fit la princesse toute songeuse.
« Il y a 4 ou 5 jours. C'était mercredi, je crois. »«
Mercredi ?
Il a passé la soirée ici. Ce serait donc en nous quittant ?
Après minuit ?
Sais-tu, Platon ?
Je suis persuadé qu'il y a erreur. C'est impossible. »
« J'ai commencé par dire comme toi, mais quand j'ai vu la reconnaissance de la dette signée de sa main. »
Sophie laissa retomber la tête sur le dossier du fauteuil et ferma les yeux avec l'expression pénible de quelqu'un qui voudrait échapper à un rêve douloureux.
« Combien ? » fit-elle après un silence.
« 42 000 roubles argent. »
La princesse se leva et se mit à marcher de long en large. Après 2 ou 3 tours, elle prit le bras de son frère et ils marchèrent ainsi longtemps, cherchant des idées et ne trouvant rien. À bout de ressources, Sophie s'arrêta.
« Vois-tu, » dit-elle à son frère, « je ne peux pas croire à toute cette histoire. Pierre n'est pas joueur. Il n'aurait pas joué ce qu'il ne peut pas payer. Il n'est pas hypocrite. Il avait hier et avant-hier sa figure des jours précédents. Hier, il était préoccupé. J'en conviens. Mais sa préoccupation n'était pas celle d'un homme qui a perdu le quart de sa fortune et qui doit le réaliser dans les 24 heures. Envoie-le-moi.
À toi, que vas-tu faire ?
Savoir la vérité d'abord. Faire ce qu'on pourra ou ce qu'on devra ensuite. »
Platon regardait sa sœur d'un air de doute.
« Tu m'as parfois appelé sagesse, » continua-t-elle avec un triste sourire. « Fie-toi à moi une fois de plus. Je ne ferai que ce que je dois. »
Platon embrassa sa sœur et sortit.
Il ne put trouver Mourieff sur le champ. À ce que lui dit le brosseur du jeune officier, Pierre était toujours en course depuis la matinée de la veille. Il l'aperçut enfin dans la grande Morskaya, filant au trot allongé de son meilleur trotteur. Il l'arrêta et le fit descendre.
« Ma sœur veut te voir, » lui dit-il sans ménagement.
Mourieff pâlit et se troubla visiblement.
« Pourquoi ? » murmura-t-il.
« Ce n'est pas mon affaire. Vas-y sur le champ. Quand tu auras fini avec elle, passe chez moi. J'ai te parlé de la part du colonel. »
Pierre fit un effort et se redressa. Son visage n'exprimait plus qu'une résolution inébranlable.
« J'aime mieux cela, » dit-il. « D'ailleurs, j'avais déjà pensé à causer avec toi. En quittant ma sœur, viens me trouver, je t'attends chez moi. »«
Bien, » dit Pierre,
« à tantôt. »
Il toucha sa casquette et partit.
Platon le regarda aller, haussa les épaules, puis rentra chez lui et se mit à lire le journal.
Mourieff gravit tout d'une haleine l'escalier de la princesse. Il était de ceux qui abordent franchement les situations périlleuses.
il fut introduit dans le cabinet de travail, où il n'était jamais entré. Le jour baissait. Une seule lampe éclairait la haute pièce tapissée d'un vert foncé, presque noir à la lumière. La pâleur de la princesse l'émut douloureusement. Il n'avait pas supposé qu'elle serait instruite de cette affaire, mais il n'était plus temps de reculer. « Asseyez-vous, monsieur, » dit la princesse sans lui tendre la main. Il obéit. « J'irai droit au fait, » dit-elle. « On m'apprit que vous avez perdu au jeu une somme considérable. » Mouriet fit un geste d'acquiescement. « Et que vous ne pouvez pas la payer. »«
Permettez, princesse. J'espère d'ici à demain avoir trouvé les fonds nécessaires, » dit Pierre d'une voix parfaitement nette.
« En êtes-vous sûr ?»«
On n'est jamais sûr de rien, »
fit le jeune homme en regardant le tapis.
« Savez-vous que vous serez cassé si vous échouez ?»«
C'est probable, » dit Mouriet avec une insouciance qui choqua la princesse.
« Cette perspective semble ne vous offrir rien de désagréable, » répliqua-t-elle avec hauteur.
Le jeune homme fit un geste vague qui pouvait signifier aussi bien « N'ayez pas peur » que « Je m'en moque ».
Sophie le regarda attentivement.
« Monsieur Mouriet, » lui dit-elle avec douceur, « vous m'avez fait beaucoup de chagrin. »
Pierre s'inclina très bas et baisa respectueusement un pli de sa robe.
« J'avais de vous une si haute idée, » reprit la jeune femme. « Je vous estimais si fort au-dessus du commun. Et vous, notre ami, vous vous êtes compromis dans une aventure vulgaire. On vous a vu dans une maison. »
Elle n'osa trouver d'épithète. D'ailleurs, elle n'en eut pas le temps. Pierre avait bondi sur ses pieds.
« Qui a dit cela ? » s'écria-t-il. « On a menti. »
Sophie respira cette fois avec effort, puis, plus blanche que son col de batiste, elle se laissa aller dans le fauteuil. Elle avait perdu connaissance.
Pierre lui prit les mains et les réchauffa sous ses lèvres, mais il n'eut pas l'idée d'appeler. Même pour porter secours, un tiers eût été de trop. Au bout de quelques secondes, Sophie revint à elle.
« On a menti, » répéta-t-il en voyant s'ouvrir les yeux de la princesse.
« Je n'ai pas eu l'infamie de fréquenter une telle société. »
Après ce que vous savez, ce que je vous ai dit à vous-même, non, je n'ai pas donné à un homme au monde le droit de m'appeler menteur et hypocrite. »
Sophie fit un geste de la main. Pierre saisit cette main au vol.
« Vous n'avez pas joué ? » dit-elle avidement en se penchant vers lui. Il passa la main sur son front.
« Ne m'interrogez pas, » dit-il avec désespoir. « Croyez-moi sur parole, je ne puis pas répondre. »
« Je veux que vous répondiez, » fit-elle d'une voix suppliante. « Vous n'avez pas joué ?»
Pierre se couvrit le visage de ses deux mains, afin d'empêcher ses regards de répondre pour lui. Elle écarta ses mains et le força à la regarder.
« Ce n'est pas vous qui avez joué, » fit-elle, transportée, illuminée d'une clarté subite.
« C'est un autre. Dites, ce n'est pas vous. »
Pierre ne put mentir.
« Non, » dit-il comme malgré lui, « ce n'est pas moi. »
« Ah !» fit Sophie éperdue en lui tendant les deux mains. « J'en étais sûr. »
Pendant un moment, ils oublièrent tout danger. Les mains nouées, les regards croisés, ils vécurent ainsi la plus belle minute de leur existence.
« Racontez-moi cela, » dit Sophie, qui s'assit sur le canapé et fit une place près d'elle pour son ami.
« Je ne puis, » fit celui-ci de l'air le plus suppliant.
« Épargnez-moi, j'ai promis de ne pas dire, mais à moi.
Vous n'avez pas promis de ne pas me le dire à moi. Je vous jure de ne le répéter à personne, pas même à Platon.
Oh, Platon est un autre moi-même.
J'ai promis, » insista le jeune homme.
« Soit, » répondit Sophie, « je ne dirai rien, mais il est intelligent. S'il devine, ça ne sera pas ma faute. Que s'est-il passé ?»
Avant-hier soir, commença Pierre, je revenais de chez vous lorsqu'on m'annonça un jeune officier tout nouvellement entré au régiment. Il a 16 ans et demi, il arrive d'un corps militaire de province. Pétersbourg lui a tourné la tête.
Ce n'est pas bien surprenant.
Donc, mercredi, il a été dans cette maison dont on vous a parlé. Il s'est fait plumer jusqu'aux os, et il a perdu plus qu'il ne peut payer en 10 ans. Je m'intéressais à lui. Il est si jeune, et quand on n'a pas de famille pour vous tenir la bride serrée, on est si bête à cet âge-là. Il venait m'apporter une lettre qu'il me priait de faire passer à sa mère. Il n'a plus qu'elle. Sa démarche à cette heure indue me parut bien singulière. J'avais entendu dire au régiment qu'un officier, on ne savait lequel, avait perdu une somme absurde. Bref, j'appris que dans l'impossibilité de payer sa dette, il allait se brûler la cervelle en rentrant chez lui. Il avait trouvé cela tout seul. Quel génie! Voyons, princesse, vous qui avez du bon sens, qu'auriez-vous fait à ma place?
Continuez,
dit la princesse en souriant. Je lui présentai premièrement toute l'insanité de sa conduite. Il en convint et m'annonça qu'il allait s'en punir par le moyen le plus radical. Je lui parlai alors de sa mère. J'avais trouvé la corde sensible. Il est fils unique, adoré, gâté, jugez-en. Sa mère possède un revenu de 7 000 roubles. Elle lui en envoie 6 000 et vit avec le reste. On devrait mettre en prison des mères pareilles pour les empêcher de gâter leurs enfants. Enfin, il pleura comme une jeune génisse.
Vous riez? Je ne riais pas, moi.
Et malgré mon peu d'éloquence, il faut croire que la Providence m'a envoyé une inspiration toute particulière, car j'étais presque aussi ému que lui. Je lui propose alors de faire des billets.
Il n'est pas majeur, l'imbécile. On a refusé son papier comme de juste.
Il est allé voir un usurier qu'il a envoyé promener, alors...
Alors c'est vous qui avez signé,
dit la princesse, les yeux noyés de larmes heureuses.
Mon Dieu, fit Mourieff en cherchant à s'excuser, il le fallait bien, je suis majeur, moi.
Et si vous ne trouvez pas l'argent nécessaire pour demain, m'avez-vous dit?
Oui, demain, eh bien, je ne sais pas ce que je ferai.
Le pire qui puisse arriver serait que mon jeune homme fût cassé.
Il a repris goût à la vie, il ne se brûlera pas la cervelle.
Je donnerai tout ce que j'ai trouvé, et le créancier sera bien obligé de se contenter de ma signature à longue échéance pour le reste.
Combien avez-vous trouvé?
27 000 roubles, et pas sans peine.
Allons, mon ami, cherchez le reste, fit la princesse en se levant.
Bon courage.
Vous me renvoyez?
Dit piteusement Pierre, qui n'avait pas envie de s'en aller.
Ne vous souvient-il plus que mon frère vous attend pour vous sermonner?
Ah, mon Dieu, je l'avais oublié,
s'écria Mourieff en cherchant sa casquette qu'il tenait à la main.
« J'y cours.
Si vous saviez, princesse, comme il est facile de porter le poids d'une faute qu'on n'a pas commise.
Bien sûr, je ne changerai pas avec mon petit cornet. »
Son beau sourire se refléta sur le visage de la princesse.
« Alors, dit-il en lui prenant la main, vous ne m'en voulez pas de vous avoir fait souffrir ?»«
Non, dit-elle en le regardant sans fausse honte.
Vous êtes sorti de page, monsieur Mourieff. Désormais, vous avez prouvé que vous êtes un homme. Vous pouvez tout tenter et tout espérer.
Tout ?
Demanda Pierre qui retenait sa main.
Tout,
répéta-t-elle, le visage couvert de rougeur.
Eh bien, quand je serai hors de ce pétrin, je vous demanderai quelque chose.
Demandez-le tout de suite.
J'aimerais mieux vous l'accorder pendant qu'aux yeux du monde, vous n'êtes pas encore innocent.
Pierre la tira dans ses bras. Elle lui murmura quelques paroles d'une voix si basse que personne n'a jamais su ce que c'était.
« Oui,
dit-elle fermement, et j'en serai fier. » Il la serra sur son cœur et se rendit chez Platon pour essuyer par procuration la semonce du colonel.